Rebonjour à tous. C'est le fun de vous voir ce matin. Ça paraît que la chaleur de l'été revient. L'assistance remonte avec la chaleur. On devrait faire une étude avec d'autres amis à moi, pasteurs dans d'autres églises au Québec. Ils disent on devrait faire une étude de l'assistance en fonction de la température et on verrait que ça serait vraiment proportionnel. Ça suit vraiment, surtout en hiver avec la glace. Ceux d'entre vous qui venaient en autobus, avec les poussettes et tout ça, on comprend que c'est un défi l'hiver, donc c'est une joie d'être rassemblés ensemble ce matin. Merci beaucoup à Yves et Marie-Michel pour cette direction dans la louange. Quelle joie de pouvoir louer notre grand Dieu ensemble, n'est-ce pas? Amen. Et quel beau texte qu'on a pu entendre. On va en voir une démonstration directe dans notre texte de ce matin, Actes chapitre 12. Alors, en Église, on est en train de traverser les deux derniers tiers des Actes des Apôtres, une série qu'on a appelée « En mission avec Jésus ». On a commencé avec la conversion de Saul de Tarse il y a quelques semaines, la conversion de Corneille, le premier païen, la semaine passée. Aujourd'hui, on va voir la délivrance de l'apôtre Pierre. Et j'ai appelé, intitulé le message de ce matin « Mise à mort ou délivré ». Alors, je vous invite à tourner avec moi dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 12. Et je vais nous lire ce passage. On a raté la fin du chapitre 11. Alors, si vous suiviez très, très bien dans votre Bible, vous allez vous rendre compte. Ah, mais Benoît, la semaine passée, tu as fini Actes 11, verset 18. Puis là, tu as sauté 12 versets pour aller au chapitre 12. Ne craignez point. La semaine prochaine, Ovidiu va reprendre ces versets-là. Je pensais, on a finalisé notre horaire pour la série et j'ai raté quelques versets, la fin de Actes chapitre 9. Je vous encourage, là, vous avez l'horaire sur le bulletin, toujours de trois dimanches à venir. Ça ne devrait pas bouger. On vous invite à les lire d'avance. Ça peut faire des longs textes à lire. On ne pourra pas toujours lire le texte en entier. Puis, ça vaut la peine pour vous de voir, d'être comme des Béréens, de s'assurer que ce qui est enseigné est fidèle à la parole de Dieu. Donc, on vous encourage. Vous pouvez traverser les Actes des Apôtres une fois, deux fois, trois fois dans les prochains mois. C'est fascinant. Si vous ne l'avez jamais lu, ça se lit comme un livre d'action. C'est vraiment incroyable de voir les Actes. On l'appelle les Actes des Apôtres. Plusieurs ont dit qu'on devrait appeler ça les Actes de l'Esprit de Dieu. À travers les apôtres, parce que les apôtres sont conduits par l'Esprit et le Seigneur fait des miracles à travers eux alors que sa parole se propage. Alors, je vais commencer avec la lecture de Actes chapitre 12. Je lis la parole de Dieu. À cette époque-là, le roi Hérode se mit à maltraiter des membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Quand il vit que cela plaisait aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant la fête des pains sans levain. Après l'avoir fait arrêter et jeter en prison, il le mit sous la garde de quatre escouades de quatre soldats chacune. Il avait l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison et l'Église adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, attaché avec deux chaînes, dormait entre deux soldats. Des sentinelles postées devant la porte gardaient la prison. Soudain, un ange du Seigneur survint et une lumière resplendit dans la cellule. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et lui dit « Lève-toi, vite !» Les chaînes tombèrent de ses mains. Puis, l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales. » C'est ce qu'il fit. L'ange lui dit encore « Mets ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit. Sans savoir que ce que l'ange faisait était réel, il croyait avoir une vision. Ils passèrent la première garde, puis la seconde, et ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. La porte s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. revenu à lui-même, Pierre dit, « Maintenant, je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré du pouvoir d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, la mère de Jean, surnommée Marc, d'où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte d'entrée et une servante appelée Rode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et, dans sa joie, au lieu de lui ouvrir, elle courut annoncer que Pierre se tenait devant la porte et lui dire « T'es folle! » Mais elle soutenait que c'était bien vrai. Ils dirent alors « C'est son ange! » Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent stupéfaits de le voir. De leurs mains, il leur fit signe de se taire et leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de sa prison. Il ajouta « Annoncez-le à Jacques et aux frères et sœurs. » Puis il sortit et s'en alla dans un autre endroit. Quand il fit jour, il y eut une grande agitation parmi les soldats. Qu'était donc devenu Pierre? Hérode le fit rechercher, mais on ne le trouva pas. Il interrogea les gardes et donna l'ordre de les faire exécuter. Ensuite, il quitta la Judée et descendit à Césarée pour y séjourner. Hérode était en conflit avec les Tyriens et les Sidoniens, mais ils vinrent le trouver d'un commun accord et après avoir gagné Blastus, le responsable de sa chambre, ils demandèrent la paix parce que leur région dépendait de celle du roi pour son ravitaillement. Le jour fixé, Hérode, habillé de sa tenue royale, était assis sur son trône et leur adressait publiquement un discours. Le peuple s'écria « C'est la voix d'un dieu et non d'un homme! » Un ange du Seigneur le frappa immédiatement parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Il mourut rongé par des vers. Quant à la parole de Dieu, elle se propageait de plus en plus. Et je vais arrêter là. Acte chapitre 12. Moi, je vais lire le dernier verset. Une fois leur mission à Jérusalem accomplie, mission dont vous allez entendre parler la semaine prochaine ou que vous devez lire à la fin du verset du chapitre 11, Barnabas et Saul repartirent, amenant avec eux Jean, surnommé Marc. Alors, quel texte fascinant des Actes des apôtres. Ça sonne vraiment comme un récit de fiction, comme moi, en tout cas, étant un jeune homme de mon âge, je m'imagine une scène de jeu vidéo où est-ce que c'est ça, que normalement, il faudrait que tu battes les gardes pour t'enfuir, puis tout ça, mais là, les portes s'ouvrent tout seul, les chaînes tombent, et Pierre sort, n'étant pas conscient qu'il n'était pas en train de rêver ou d'avoir une vision, mais que c'est vraiment ça qui venait de se passer. Alors, il y a trois leçons, je pense trois choses que j'aimerais ressortir de ce texte-là. Les deux premières sont intimement liées. La troisième est un peu unique en elle-même. Alors, la première, c'est que Dieu permet parfois que son Église souffre. On voit au début que Jacques a été mis à mort. La deuxième chose, c'est que Dieu délivre souvent ses enfants de grand danger. Donc, Dieu permet que l'Église souffre parfois, mais Dieu délivre aussi souvent ses enfants de grand danger. Le troisième point, c'est que Dieu, en son temps, Dieu jugera ceux qui s'opposent à son royaume, comme il l'a fait avec Hérode à la fin du texte. Donc, tout d'abord, on va regarder les deux premiers points ensemble. Mais Dieu permet parfois que son Église souffre. Il y a eu un temps de grande bénédiction pour l'Église. À la fin du chapitre 11, on voit qu'il y a une première Église à Antioche de juifs et de non-juifs ensemble qui partagent la foi, qui s'édifient, qui sont enseignés par Barnabas et par Saul qui s'est converti pas longtemps. Il y a plusieurs enseignants à cette église-là et ils viennent en aide à l'église de Jérusalem. L'église est unie, l'église va bien, l'église est en train de grandir. Mais il y a aussi des moments de persécution. Et il y a des moments où Dieu permet que l'église souffre. Si vous vous souvenez de votre histoire des Actes des apôtres, au chapitre 7 dans les Actes, on assiste au premier martyr. Étienne, ou Stéphane, est mis à mort, il est lapidé par les Juifs à cause de ce qu'il affirme au sujet de Jésus. Et Étienne n'est pas délivré de la mort. Étienne meurt comme témoignage pour Jésus. Et là, au début de Actes chapitre 12, un autre exemple. Ici, Jacques va être mis à mort par Hérode. Dieu permet parfois que son Église souffre. Et avoir une idée que Dieu nous délivre toujours de la souffrance, on passe à côté de beaucoup de données bibliques. Et on va voir, plus on va continuer dans les prochains mois avec les voyages de Paul, où Paul va souffrir énormément pour apporter l'Évangile, parce que ça vaut la peine. Et on va avoir l'occasion de pouvoir réfléchir nous-mêmes à ça, à quel point nous sommes appelés à souffrir aussi pour l'Évangile, pour le Seigneur Jésus. Mais Dieu permet parfois que son Église souffre. Celui qui était roi du coin, le roi Hérode, fait mettre à mort Jacques. Alors, si vous réfléchissez un peu comme moi au roi Hérode, vous pouvez vous dire qu'il y a un règne qui est pas mal long. Parce que Hérode est là quand Jésus naît, Hérode est là quand Jésus est jugé, Hérode est là plusieurs années après. En fait, c'est tous des Hérodes différents. Il y a eu plusieurs personnages dans l'histoire des rois, des dirigeants qui portaient le nom Hérode. Mais souvent, ils ont un surnom ou un deuxième nom qui nous aide à les identifier, que le texte biblique ne rapporte pas toujours. Comme celui qui a mis à mort, qui a tenté de mettre à mort Jésus, c'était Hérode le Grand, celui qui a fait construire le temple de Jérusalem, celui qui s'est arrangé avec César pour se faire nommer roi. Alors, Ovidiu pourrait vous parler beaucoup plus de eux. Alors, c'était Hérode le Grand qui était là à l'époque et il est mort pendant que Jésus est en Égypte. Il a été remplacé par son fils Archélaus qui, lui, a été exilé. Alors, il y a certaines choses que la Bible raconte, d'autres informations qu'on a des autres écrits historiques de l'époque. Un autre Hérode, Hérode Antipas, lui a régné de 4 avant Jésus-Christ jusqu'à 39 après Jésus-Christ, en Galilée et en Pérée. C'est celui qui a fait décapiter Jean-Baptiste. C'est celui qui voulait voir Jésus faire un miracle, qui était très content lorsqu'il était à Jérusalem, à la Pâque, quand Pilate lui a envoyé Jésus, qui était content de l'avoir, il voulait le voir faire un miracle, qui a mis sa robe sur Jésus. Alors, un autre, le deuxième Hérode biblique, Hérode Antipas, lui est mort en 39 après Jésus-Christ. Puis, on voit ici Hérode Agrippa, le premier, qui a régné de 37 à 44, puis à partir de 31, avait le contrôle de tout Israël. Et au-delà aussi, c'est lui qui est Hérode de cette histoire, Hérode Agrippa premier. Puis à la fin des Actes, au chapitre 26, on a quelqu'un qui est appelé Agrippa, mais ce n'est pas le même, c'est Hérode Agrippa II, et qui a régné plus tard sur la Galilée, et etc. Donc, pour plus d'informations, vous pouvez faire une recherche Wikipédia pour voir c'est qui tous ces Hérodes-là, ou aller dans une... Il y a un tableau dans une Bible d'études, la Bible d'études Sommaire, la page 1523, qui montre les différents Hérodes, qui a régné quand, où. Alors, vous pourrez aller sur le site Internet pour avoir le numéro de la page, pour réécouter le message. Donc, ici, Hérode Agrippa Ier, trêve d'histoire du 1er siècle. Hérode Agrippa le Ier n'a pas régné longtemps, 7 ans. Puis là, il vient d'avoir le contrôle sur Jérusalem. En 41, ça a duré 3 ans, son règne sur la section de Jérusalem. Après ça, il meurt à la fin de notre histoire, rongé par les vers, frappé par un ange. Donc, Hérode Agrippa, ça faisait pas longtemps qu'il était là. Les Juifs étaient un peuple qui était difficile à contrôler, qui avait souvent tendance à se révolter. Ils voulaient renverser les Romains. Donc, si tu étais un roi et que tu voulais que ton pays soit en paix, il fallait essayer de jongler, de faire plaisir à un peu tout le monde pour que le royaume soit en paix. Alors, les autorités juives, le Sanhédrin, le grand prêtre, etc., s'étaient déjà opposés aux apôtres. Ils les ont arrêtés à 2 reprises dans les premiers chapitres des Actes. Et Pierre avait été libéré. Pierre et Jean, je crois, avaient été libérés miraculeusement aussi par un ange alors qu'ils étaient en prison. Mais c'est intéressant que Jean est mis à mort. Jacques est mis à mort. Jacques, c'est le frère de Jean, ce que les évangiles appellent les fils de Zébédée. Ce sont ceux qui sont venus voir Jésus et qui lui ont dit, « Maître, dans Marc 10, versets 35 à 40, je vais leur lire cette petite histoire que vous connaissez sûrement à propos de Jacques et Jean. Ils disent ici, puis je pense que Luc nous dit que c'est leur mère qui vient demander. Donc peut-être qu'ils l'ont fait chacun leur tour ou que c'est Jacques et Jean via leur mère qui va poser cette question-là. « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demandons. » Jésus leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous? » « Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. » Jésus leur répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé? Nous le pouvons, dirent-ils. » Jésus leur répondit, « Vous boirez en effet la coupe que je vais boire et vous serez baptisé du baptême dont je vais être baptisé. Mais quant à être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux pour qui cela est préparé. » Jésus, parlant de cette coupe à boire, de ce baptême dont il devait être baptisé, parlait des souffrances qu'il allait devoir subir. Il parlait de sa crucifixion, de son arrestation, de toutes les choses qu'il a subies autour de ce qu'on appelle la passion de Jésus, ses souffrances. Jacques et Jean, à l'époque, probablement beaucoup plus par égoïsme qu'autre chose, voulaient être régnés sur les autres, mais probablement suite à la Pentecôte, après avoir vu l'exemple de Jésus, Jacques a effectivement bu la coupe de Jésus, a été baptisé du baptême de Jésus. Il a subi la mort pour Jésus. À quel point est-ce qu'il a été capable de s'exprimer comme Étienne avant? Le texte ne nous le dit pas. Mais Dieu permet parfois que son Église souffre. Et un peu partout à travers le monde, dans plusieurs pays, on a des frères et sœurs qui ne peuvent pas se rencontrer publiquement comme on le fait, avoir un site web. On se rencontre à telle adresse. Si vous voulez venir nous arrêter, on se rencontre à telle adresse, à telle heure. En Chine, par exemple, au Moyen-Orient, plusieurs églises doivent se cacher, doivent se rencontrer à des endroits secrets, possiblement même changer de place, parce que c'est facile pour les leaders d'être arrêtés, d'être emprisonnés pour toutes sortes de motifs. Dieu permet parfois que son Église souffre. Mais c'est conjoint aussi à cette deuxième vérité que Dieu délivre souvent ses enfants de grands dangers. Et ensuite, on a l'histoire de Pierre qui est arrêté par Hérode et qui va probablement subir la même chose que Jacques, être mis à mort par l'épée. Hérode, en voyant, il avait fait tuer Jacques, il voyait que les chefs juifs, ça leur plaisait beaucoup. Il disait, « OK, c'est bon, je suis en train d'essayer d'affermir mon autorité, je vais continuer à leur faire plaisir à eux. Pierre, il n'est pas important, les chrétiens sont pas importants, sont pas une force politique importante qui va être capable de m'élire. De toute façon, il n'était pas élu. Mais on va faire arrêter Pierre, on va le faire condamner aussi. Lui, c'est un leader important, les juifs, ils vont être encore plus contents. » Donc, les Juifs, en parlant des autorités juives, le Sanhédrin, les leaders du temple. Et cependant, Hérode arrête Pierre au début ou juste au début de la Pâque. Il va avoir une semaine, la fête des pains sans levain. Il ne peut pas avoir de procès pendant ce moment-là. Donc, Pierre est en prison le temps que la fête des pains sans levain se termine. Et après ça, il va avoir un procès et une exécution, fort probablement, de la même façon que Jacques. Alors, Pierre n'est pas gardé par n'importe qui, par juste un ou deux soldats. Il est gardé par quatre escouades de quatre soldats. Pour plusieurs commentateurs pensent que c'est soit qu'ils se relayaient, ils faisaient 6 heures chacun par bloc de 24 heures, ou qu'ils alternaient la nuit, 3 heures, faisaient 3 heures chaque pour être sûrs qu'ils soient bien réveillés, qu'ils ne s'endorment pas comme ils ont fait. Alors, Pierre était enchaîné, un soldat à sa droite, un soldat à sa gauche, 2 soldats devant sa cellule. Puis ça décourage qui que ce soit qui voudrait rentrer de force pour essayer de libérer Pierre. Alors l'Église, elle, que pouvait-elle faire contre la puissance militaire de Rome? Contre Hérode? On pourrait dire rien, mais la vraie réponse, c'est prier. Et c'est ce que l'Église a fait. Au verset 5, Pierre était donc gardé dans la prison et l'Église adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui. On les voit au verset 12, il y avait beaucoup de personnes réunies qui étaient en train de prier en plein milieu de la nuit, qui étaient en train de prier pour Pierre, pour sa situation. On a deux mondes opposés ici. On a l'autorité d'Hérode, le pouvoir de l'épée, la sécurité de la prison, et on a l'Église qui n'a aucune de ces choses, mais qui se tourne vers la prière, la seule puissance de ceux qui sont sans force. On peut toujours se tourner vers le Seigneur, lorsque même le monde entier est contre nous. Alors le Seigneur choisit de délivrer Pierre, lui qui délivre souvent ses enfants de grands dangers. Il envoie un ange pendant la nuit, probablement qu'il a fait dormir tous ces soldats-là, et il réveille Pierre en le frappant au côté. Ses chaînes tombent, il dit « Lève-toi, habille-toi, mets ta ceinture, mets tes sandales, mets ton manteau, suis-moi. » Et Pierre, encore endormi ou avec la lumière éblouissante, a l'impression qu'il est en train de voir une vision. L'ange sort, probablement qu'il se disait ça se peut pas aussi, là, les gardes ils dorment, ils partent, ils passent une garde, deux gardes, tout le monde est endormi. Et là, ils arrivent à la porte et la porte de fer, elle s'ouvre tout seul ou elle s'ouvre. Pierre sort et là, l'ange disparaît. Il se rend compte que c'est bel et bien vrai. Il dit au verset 11, « Maintenant, je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange qui m'a délivré du pouvoir d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Dieu délivre souvent ses enfants de grands dangers. Et c'est ce qu'il fait ici avec Pierre. Ensuite, on a la scène pas mal comique où Paul il est en train de... Il se dit, OK, où est-ce que je vais aller? Il dit, j'ai des frères et sœurs chez Marie, la mère de Jean-Marc. Donc, il se rend là-bas, il cogne à la porte et probablement qu'il l'appelait aussi parce que la servante Rhode arrive. Je ne sais pas si elle a dit c'est qui ou il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Puis là, elle reconnaît ses pierres. C'est Pierre! Puis là, Luc, c'est vraiment comique. Il dit même, au lieu d'ouvrir, elle court chercher les autres. Des fois, les prédicateurs, ils ont tendance à en mettre plus pour que ça soit plus drôle. Mais là, c'est Luc lui-même qui rajoute comme cette teinte d'humour-là dans toute cette histoire-là. Elle court le dire, « Hey, Pierre, il est à la porte! » On pourrait dire, « Pourquoi tu n'y as pas répondu? Pourquoi tu n'as pas ouvert? Pourquoi il n'est pas avec toi? Ah, j'étais trop excité, mais venez voir! » Mais non, ça ne peut pas être Pierre, tu t'es cogné la tête, tu es trop fatigué, tu t'es endormi pendant qu'on priait, puis tu t'as rêvé. Mais non, elle a dit, non, c'est vraiment lui. Puis il dit, c'est son ange. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est son ange? C'est un peu bizarre. Peut-être une allusion à la notion d'ange gardien, que c'était son ange gardien. Le théologien Conrad Genpf dit ceci à propos de ce passage-là. Il y avait la croyance que l'esprit ou l'ange gardien de quelqu'un pouvait se promener par lui-même et on pouvait se méprendre sur cette personne-là. Donc, on aurait dit, OK, c'est l'esprit de Pierre ou c'est l'ange de Pierre qui est là, tandis que lui est encore en prison. Mais non, effectivement, ils se rendent à la porte et leur bouche tombe à terre. Pierre est vraiment là. Et on aime bien raconter à propos de cette histoire-là. On aime bien raconter à propos de cette histoire-là que, mais là, est-ce qu'ils n'étaient pas en train de prier pour lui? Ils étaient, Seigneur, délivre Pierre, toc, 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 Pierre est à la porte. Non! Est-ce qu'il manquait de foi à ce point-là? Peut-être. Ça peut être, des fois on prie, mais on ne s'attend pas à ce que le Seigneur réponde à nos prières. On sait que le Seigneur est souverain, qu'il peut répondre oui, qu'il peut répondre non, qu'il peut répondre à temps. En général, c'est les trois choses que le Seigneur répond. Souvent à temps. Mais est-ce que l'Église avait si peu de foi? Nous, on imagine l'Église des Actes des Apôtres d'être tellement remplie de foi. Oui, c'était des hommes et des femmes beaucoup comme nous. mais qui voyait le Seigneur faire des choses vraiment extraordinaires à ce moment-là. Il y a une autre façon d'expliquer la surprise des disciples, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup fait réfléchir, le théologien Crump, dans un livre, écrit un livre sur la théologie de l'intercession de la prière dans le Nouveau Testament. Et il mentionne que probablement, ou c'est possible, que les disciples n'étaient pas en train de prier pour la libération de Pierre, mais qu'ils étaient en train de prier pour que Pierre soit courageux, que Pierre fasse face à la mort avec courage, avec persévérance, et qu'il puisse témoigner jusqu'à la fin, sans renier Jésus, comme il l'avait fait avant. La raison pour laquelle ce qui lui fait dire ça, c'est reculer quelques chapitres avec moi dans Actes 4, Actes chapitre 4, verset 23. À ce moment-ci, les disciples viennent d'être arrêtés. Pierre vient d'être arrêté pour la première fois, Pierre et Jean. Et là, on vient de les empêcher de continuer à prêcher au nom de Jésus. Le Sanhédrin les a empêchés de prêcher au nom de Jésus. Ils ne les ont pas battus, ils les ont juste relâchés. Et là, l'Église se met à prier. Je vais lire ce passage-là, Actes 4, versets 23 à 30. Une prière remplie de foi. Une fois relâchés, Pierre et Jean allèrent trouver les leurs et racontèrent tout ce que les chefs des prêtres, les anciens, leur avaient dit. Après les avoir écoutés, ils s'adressèrent tous ensemble à Dieu en disant, « Maître, tu es le Dieu qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit, par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés, les chefs se sont ligués ensemble contre le Seigneur et contre son Messie ou celui qu'il a désigné par onction. Il est bien vrai qu'Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et les peuples d'Israël contre ton saint serviteur Jésus, que tu as consacré par onction. Ils ont accompli tout ce que ta main et ta volonté avaient décidé d'avance. Et maintenant, voici leur requête. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Déploie ta puissance pour qu'il se produise des guérisons, des signes miraculeux et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ce qui est fascinant ici avec la prière de l'Église est non seulement ce pourquoi ils prient, mais ce pourquoi ils ne prient pas. Ils ne prient pas pour être délivrés. Ils ne prient pas pour éviter la souffrance. Ils prient au verset 29. Il dit « Sois attentif à leurs menaces. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Et ensuite, déploie ta puissance pour accomplir des signes, des prodiges, des miracles. » L'Église était consciente, Jésus leur avait dit, « Ils m'ont persécuté, ils vont vous persécuter. S'ils m'ont mis à mort, vous pouvez, là je paraphrase, là, vous pouvez vous attendre à un traitement similaire. » L'Église n'était pas en train de prier pour éviter la souffrance, ils étaient en train de prier pour le courage d'annoncer la parole à travers les épreuves qu'ils allaient vivre. Et le Seigneur leur a répondu en la salle qui tremble, ils sont remplis de l'Esprit et ils annoncent avec courage. Le Seigneur répond à leur prière et des miracles se produisent autour d'eux. Dans les prières de Paul, une autre chose qui est fascinante aussi, si vous faites une étude des différentes prières de Paul, on a vu ça lorsqu'on a étudié Colossiens 1, les versets 3 à 12. On avait vu une prière de Paul qui priait pour les meilleures choses pour nous. Il priait pas pour la facilité, pour l'absence de souffrance, mais il priait pour une foi affirmée, pour un amour grandissant, pour le courage. Et le Seigneur, je pense qu'il y a quelque chose là pour nous amener à prier différemment. À prier non pas pour éviter la souffrance, mais à prier pour le courage à travers la souffrance. À prier pour la persévérance pour la fidélité, pour l'amour qui grandit, pour la foi qui est affirmée. Alors, à la lumière de cette prière dans Acte 4, je pense que ce n'est pas impossible, justement, que les disciples qui étaient rassemblés dans la maison de Marie n'étaient pas nécessairement en train de prier pour la délivrance de Pierre. Un autre des apôtres, Jacques, venait de se faire mettre à mort. On ne sait pas combien de temps avant. Et probablement qu'ils étaient en train de prier. « Seigneur, accorde à Pierre, lors de son procès, de pouvoir annoncer l'Évangile avec puissance. Parle à ses persécuteurs, parle au peuple à travers lui. S'il meurt, aide-le à se rendre jusqu'à la fin pour ne pas te renier. » Et plusieurs de nos frères et sœurs qui vivent dans des pays persécutés sont capables de témoigner ces mêmes paroles-là. Priez que le Seigneur nous garde fidèles jusqu'à la fin. Lorsqu'on fait face à la souffrance et qu'on voit mieux l'éternité, on se rappelle que les choses temporaires, que notre confort ici-bas n'a que peu d'importance à la lumière de l'éternité. Et parfois, le Seigneur permet que son Église souffre, mais souvent aussi, il va les délivrer de grands dangers. Le Seigneur est fidèle dans un cas comme dans l'autre. Ses plans sont parfaits et sa sagesse nous dépasse. Alors même si moi je souffre et qu'un autre est délivré, ou même si nous, au Canada, on dit « Pourquoi nous, on vit tant de confort? » tandis que nos frères et sœurs sont mis à mort. Eh bien, on ne peut pas scruter la pensée de Dieu. Le Seigneur est sage. Le Seigneur est Dieu. Il est Dieu, nous ne le sommes pas. Mais dans un cas comme dans l'autre, on est appelé à nous confier en lui et à prier de telles prières que l'Église priait, je crois, pour le courage d'annoncer la parole, malgré la souffrance. Et oui, Seigneur, sois attentif. Regarde les menaces qu'on nous fait. Fais ce que tu veux avec eux. Mais aide-nous, Seigneur, à être courageux à travers ces épreuves. Notre espoir ne finit pas dans cette vie. De sorte que malgré les épreuves qu'on peut traverser ici-bas, ce n'est pas la fin. Il y a toujours l'attente d'un monde meilleur pour ceux qui ont renoncé au contrôle de leur propre vie pour le confier à Jésus-Christ. Alors Dieu va délivrer souvent ses enfants de grands dangers. On vient de lire le psaume 91 ensemble qui parle de la protection du Seigneur, que 1000 tombent à ta droite, 10 000 à ta gauche, tu ne seras pas atteint. Alors, est-ce que ça a été vrai pour tout le monde, ça? Pour David, ça a été vrai dans sa vie? Effectivement, le Seigneur l'a préservé. Mais pour Étienne, juste ce passage-là, ben c'était pas littéral, en tout cas, que ça s'est appliqué. Pour Jacques, c'était pas littéralement que ça s'est appliqué. Mais dans le sens éternel, oui. Qu'il y en a 1000 qui tombent à ta droite, 10 000 à ta gauche, à ton côté. En te confiant en l'éternel, ton âme est en sécurité. Que, comme Jésus disait, ne craignez pas, je vais peut-être mal le citer, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps et verser notre sang, mais craignez plutôt celui qui peut jeter le corps et l'esprit en enfer. Alors, on va avoir l'occasion de méditer sur ça dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, alors qu'on va continuer dans les actes. Alors, Dieu accorde parfois la libération, mais aussi parfois la souffrance. On est dans un monde où on vit tellement de confort et en même temps tellement de souffrance. Les avancées médicinales nous font qu'on est de moins en moins habitué à la souffrance. On est capable d'atténuer beaucoup de souffrance. Et dès qu'on vit de la souffrance, souvent, on veut que ça arrête tout de suite. Et moi, j'ai été très peu malade dans ma vie. Je l'ai très peu vécu. La souffrance, mais plusieurs d'entre vous pouvez témoigner des douleurs que c'est, la difficulté que c'est d'endurer la souffrance pendant des semaines, des mois, des années, peut-être des décennies. Ceux qui font face à de la douleur chronique, oui, la médecine moderne peut soulager un peu, mais ça demeure incomplet jusqu'au renouvellement de nos corps. Alors, je pense que ça vaut la peine de considérer dans nos prières. On peut prier pour la guérison. Je pense qu'on est appelé à le faire, à faire confiance au Seigneur. Le Seigneur a fait des guérisons. Il en fait encore aujourd'hui. Le Seigneur délivre, prend plaisir à répondre aux prières de ses enfants qu'il aime. Dieu prend plaisir à répondre aux prières de ses enfants qu'il aime et de témoigner de sa force en nous guérissant, en nous soutirant d'un danger, en nous protégeant de quelconque danger. Mais parfois, le Seigneur permet qu'on passe à travers une tempête, permet qu'on passe à travers un moment de souffrance. Et ses plans sont bons. Ça vaut la peine de se rappeler qu'on est entre ses mains, que lui est sage, que nous ne le sommes pas, que le Seigneur se sert de la souffrance pour nous appeler, pour nous apprendre à dépendre de lui. Et c'est un peu un test de notre foi. Est-ce que j'aime le Seigneur juste parce que ma vie est facile? Ou est-ce que je peux témoigner que même dans la tempête, le Seigneur est fidèle, que le Seigneur est meilleur? Lorsqu'on loue le Seigneur, même dans la souffrance, on témoigne que le Seigneur est meilleur que l'absence de souffrance. Et il y a là un témoignage puissant pour le monde qui regarde l'Église de Jésus-Christ, de voir que Jésus est plus précieux pour nous que l'absence de souffrance. Alors, Dieu souvent va délivrer son Église de grands dangers. Et la plus grande libération que Dieu a faite, le plus grand danger duquel il nous a délivrés, c'est celui de sa propre colère envers nous, à cause de nos péchés, à cause de notre rébellion contre Dieu. Chacun d'entre nous, naturellement, la Bible dit que nous sommes des enfants de colère. Nous sommes sous le jugement de Dieu à cause de notre rébellion contre lui. Adam et Ève ont voulu décider eux-mêmes le bien et le mal. N'ont mangé qu'une pomme, mais ont fait un peu comme Hérode, se sont fait Dieu eux-mêmes. Ils ont voulu s'élever en Dieu, je détermine le bien et le mal. Il y a là un grand jugement contre notre société, notre morale qui souvent est, on dit c'est déterminé par ce que moi je veux. Le bien, c'est moi qui le détermine, le mal, c'est moi qui le détermine. Mais le Seigneur a pourvu à une libération pour nous, contre sa colère. Il l'a versé sur Jésus. Le message que les disciples annonçaient, que Jésus était mort pour nos péchés, qu'il est ressuscité des morts, que Jésus va revenir juger, mais qu'on peut éviter le jugement de Dieu en se mettant sous l'aile de Jésus, en nous détournant de notre ancienne vie, nous détournant de nos péchés, en nous confiant en Jésus seul pour le pardon de nos péchés, pour notre espérance éternelle. Et si c'est pas une assurance que tu as ce matin, le Seigneur t'invite. Viens m'apporter ta vie. Viens délaisser ta volonté propre à diriger ta vie toi-même. Renonce à ta vie. Viens me suivre. Le Seigneur Jésus a dit, je ne mettrai jamais dehors celui qui vient à moi. Le Seigneur nous invite. Il vous invite à venir à lui, à goûter à son pardon, à sa paix et à la vie éternelle. À la fin de notre texte, on voit aussi le jugement de Dieu contre Hérode. Dieu va finir par juger ceux qui s'opposent à son royaume en son temps. Le Seigneur, le temps du Seigneur n'est pas notre temps. Et on pourrait dire, pour Hérode, c'est arrivé vite, mais pour certains tyrans, ça n'arrivera jamais de leur vivant. Mais Dieu va juger ceux qui s'opposent à son royaume, à moins qu'ils se réfugient sous la croix de Jésus. Alors, on voit ce petit épisode à la fin. Hérode, qui était en conflit avec les Tyriens, les Sidoniens, les gens de Phénicie, les Phéniciens. Alors, ils réussissent à s'entendre. Les Phéniciens disent, on est en conflit avec Hérode, mais on a besoin des vivres qui viennent de son coin. Il faut qu'on s'arrange. Donc, ils réussissent à avoir un gars de leur côté, un responsable politique. Ça dit que c'était le responsable de la chambre d'Hérode Blastus. Ils demandent la paix et ça, c'est réglé. Alors, peut-être que c'était un grand triomphe pour Hérode que ça, ce conflit-là, ça soit réglé. Pendant un jour, verset 21, habillé de sa tenue royale, assis sur son trône, adressait publiquement un discours. Il y a un historien, c'est connu parmi ceux qui étudient les événements du 1er siècle, l'histoire juive, un historien juif qui s'appelle Joseph ou Flavius Joseph, quelqu'un qui s'était rebellé contre les Romains après ces années-là. Et... Mais lorsque les Romains ont complètement détruit Jérusalem en l'année 70, je pense qu'il a été pris comme prisonnier et il a travaillé pour les Romains et il a écrit l'histoire des Juifs. Une grosse brique qui a appelé, je sais, en anglais, c'est l'Antiquité des Juifs. Il a écrit un autre livre aussi, Les guerres des Juifs, je crois. Et c'est un Juif pieux, mais qui raconte l'histoire des Juifs, des récits bibliques et tout ce qui se passe entre les deux testaments, aussi entre l'Ancien et le Nouveau. Il raconte des événements aussi qui se passent à l'époque de Jésus. Il mentionne aussi Jésus, il mentionne ses disciples. C'est une des mentions à l'extérieur de la Bible de l'époque, des décennies qui suivent, là, que Jésus a bel et bien existé, que l'Église a bel et bien commencé dans les années que le Nouveau Testament dit que c'était le cas. Mais l'historien Flavius Joseph raconte cet épisode-là d'Hérode, assis sur son trône avec les gens qui disent « c'est la voix d'un dieu et non d'un homme ». Joseph raconte le fait que Hérode était il avait un vêtement qui était fait entièrement d'argent. Et le matin, alors il n'était pas pauvre Hérode, là, il avait fait coudre quelque chose fait en argent et le matin, le soleil reflétait sur son vêtement d'argent, et il devait avoir l'air d'un dieu. Avec le fait qu'il reflétait les chefs politiques à l'époque, je pense que le fait d'être d'excellents orateurs, c'était vraiment important. Donc, il s'adressait à la foule, il les avait vraiment captivés. Il avait l'air d'un dieu, et il parlait comme un dieu. Alors, les gens ont dit, c'est la voix d'un dieu. Et Hérode, contrairement aux apôtres, comme on va voir plus tard, qui vont se mettre à terre et dire, non, je ne suis qu'un homme. S'il vous plaît, ne fais pas ça. Je ne suis qu'un homme. Comme Pierre, la semaine passée, Corneille se jette à terre et dit, non, relève-toi. Je ne suis qu'un homme. Hérode, emporté par la foule, par son orgueil, ne les reprend pas. Il dit, je vais le prendre. Je vais le prendre. C'est la voix d'un homme et non d'un Dieu. Et Luc nous dit ici qu'un ange va le frapper immédiatement. Joseph raconte une histoire un peu bizarre. Il dit que Hérode voit un hibou. Et là, que c'est un mauvais signe pour lui parce que et là, tout d'un coup, il a peur et il a une grosse douleur abdominale qu'il prend. Et il doit quitter, comme en plein discours, il doit quitter à cause d'une grosse douleur abdominale et il meurt 5 jours après. Alors ça, c'est un témoignage, pas de la Bible, un témoignage d'un historien non chrétien de l'époque, que Hérode Agrippa Ier, après ce fameux discours-là, puis Joseph, l'historien, lui, c'est un juif pieux aussi. Alors, il trouve que c'était blasphématoire de Hérode de n'avoir pas repris la foule. Il dit, Dieu l'a jugé pour ça et il est frappé. Et Hérode meurt dans les jours qui suivent. Luc dit, rongé par des vers. Peut-être, est-ce que, en tout cas, douleur intestinale, des vers. Je cherche pas à trop essayer de comprendre c'est quoi qui s'est passé. Ça peut être un peu peut-être trop dégueu. Mais Hérode est frappé par Dieu, jugé à cause de son orgueil et parce qu'il s'est opposé au royaume de Dieu. En son temps, Dieu va juger ceux qui s'opposent à son royaume. Et au verset 24, ça dit, « Quant à la parole de Dieu, elle se propageait de plus en plus. » Alors Hérode, qu'on disait de lui, « C'est la parole d'un homme et non d'un Dieu. » Ah ouais, je vais le prendre. Hérode, on lui a dit ça, c'est la parole d'un dieu et non d'un homme. Eh, vous écoutez bien, merci. C'est la parole d'un dieu et non d'un homme. Oh, ouais, je vais le prendre. Et lui, il meurt en dedans de 5 jours. Tandis que la vraie parole de Dieu, verset 24, quant à la parole de Dieu, la parole du vrai Dieu, elle se propageait de plus en plus. Elle n'est pas arrêtable. Si le Seigneur a l'intention que sa parole se propage, aucun homme, aucune puissance humaine, militaire ou politique ne pourra l'arrêter. Amen. Dieu va triompher, et son plan va s'accomplir en fin de compte, peu importe la persécution. Le théologien John Stott dit, « Le chapitre a commencé avec Jacques mort, Pierre en prison et Hérode triomphant. Il finit avec Hérode mort, Pierre libre, et la parole de Dieu triomphante. » Je conclue avec la suite. Il dit, « Dieu peut permettre aux tyrans de se vanter pendant un temps, d'oppresser l'Église et faire obstacle au progrès de l'Évangile, mais ils ne dureront pas. À la fin, leur empire sera brisé et leur orgueil abaissé. Réfugions-nous sous Jésus, faisons connaître ce message de vie éternelle autour de nous. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.